Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parizeau, Christelle Revière.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Allez, c'est parti pour RTL midi. Et comme chaque jour, vous le savez, on a besoin de vos témoignages, de votre expertise, de vos réactions au 32-10. Évidemment, aujourd'hui, sur cette fin de campagne marquée par l'attaque terroriste d'hier soir aux Champs-Élysées qui a coûté la vie à un policier, Jérôme Bonnet, le porte-parole du directeur général de la police nationale, sera notre invité dans 20 minutes. Il va donc s'exprimer sur l'émotion des policiers, l'enquête évidemment, mais aussi sur la sécurité du scrutin de dimanche. Le terrorisme peut-il perturber le rendez-vous démocratique des Français? On en parle. Comment jugez-vous les réactions des candidats? Est-ce que vous allez modifier votre vote? Vous interrogez-vous sur la sécurisation des bureaux de vote? 32-10, on sera avec le politologue Pascal Perrineau à 13h.
Dans RTL Midi, nous reviendrons sur le profil ultra-violent de l'assaillant, un homme de 39 ans qui avait déjà tenté de tuer un policier. Nous verrons ce que vaut la revendication de l'État islamique et nous ferons le point sur l'enquête. Il n'y a pas de complice dans la nature. Nous rendrons hommage à la victime, Xavier, 37 ans, sur les Champs-Élysées où des policiers se sont symboliquement recueillis ce matin. Quant à la campagne présidentielle, Marine Le Pen et François Fillon durcissent le ton sur les contrôles aux frontières et les personnes fichées S. Mais dans l'actualité, il y a aussi le tirage au sort des demi-finales des Coupes européennes de football et Monaco, Nicolas Georgerot, tombe en Ligue des Champions sur l'adversaire le plus redoutable.
Monaco a hérité du plus dur, la Juventus de Turin, un finaliste il y a 2 ans et qui vient de sortir le Barça, match aller le 2 ou 3 mai en Principauté, match retour le 9 ou 10 mai à Turin. Dans l'autre demi-finale, ce sera un derby, le Real Madrid affrontera l'Atlético de Madrid.
Et on attend le tirage au sort de Lyon dans les prochaines minutes. À 13h30, nous évoquerons avec vous ces gestes qui sauvent. Un rapport remis hier au gouvernement prévoit une formation continue pour chacun tout au long de sa vie. Nous attendons vos témoignages, vos arguments. 32-10, la météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Un petit peu moins fraîche.
Oui, après une matinée encore assez fraîche avec de nombreuses gelées, notamment du nord-est au centre-est, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 4, moins 5 degrés. Cet après-midi, les températures se réchauffent enfin. On attend jusqu'à 22 degrés à Bordeaux, 19 à Montélimar, 18 à Paris comme à Rennes, 13 degrés de minimum au Havre, avec un temps qui sera très ensoleillé sur la plupart des régions. Ce sera un petit peu plus nuageux au nord de la Seine avec un risque d'averse.
Et la question du jour sur RTL.fr, on vous demande si l'attaque d'hier soir sur les Champs-Élysées peut vous faire changer votre vote. Et vous nous répondez oui à 21%. 76% d'entre vous disent non. Le mieux, c'est d'en parler directement. Et pour ça, c'est de faire le 32-10 maintenant.
RTL Midi. L'attentat d'hier soir sur les Champs-Élysées est venu cruellement rappeler que cette élection présidentielle est définitivement inédite. C'est aussi la toute première fois depuis le début de la Ve République qu'elle se déroule en état d'urgence. La fusillade contre des policiers qui a fait un mort et 2 blessés hier soir a percuté la campagne à 3 jours du premier tour. Ce matin, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, à l'issue d'un conseil de défense, en a appelé à la raison.
Rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental pour notre pays. À la veille d'un rendez-vous majeur, j'en appelle bien entendu à l'esprit de responsabilité et la dignité de chacun. Il nous appartient de ne pas céder à la peur, à l'intimidation, à la manipulation qui ferait le jeu des ennemis de la République. Il nous appartient aussi de ne jamais céder à la division et encore moins à l'outrance. C'est l'obscurantisme et l'intolérance qui doivent être combattus, et c'est bien l'unité qui, plus que jamais, doit prévaloir.
Bernard Cazeneuve avec Vincent Derosier.
Il était donc un peu moins de 21h hier soir, à l'heure où les Champs-Élysées sont bondés, lorsque l'assaillant s'est arrêté. Donc en voiture, à hauteur d'un quart de police, il est sorti et il a tiré à l'arme automatique. L'un des policiers touché à la tête a donc été tué. 2 autres ont été sérieusement blessés et des tirs de riposte ont ensuite abattu l'assaillant. La scène n'aura duré que quelques secondes, mais ensuite le quartier a été bouclé durant de longues heures. Olivier Bois, on sait que l'agresseur s'appelle Karim Cherfi, qu'il avait 26 ans. On sait aussi qu'il s'en était déjà pris à des policiers et qu'il passait pour un homme ultra-violent.
Oui, capable de coups de folie comme en 2001. Il est arrêté pour une histoire de voiture volée et surtout parce qu'il a tiré sur la police pour tenter de s'enfuir. En garde à vue, il va réussir à voler l'arme d'un policier pour lui tirer dessus à 5 reprises. Il a 23 ans, il va faire 12 ans de prison pour cette tentative d'assassinat. En détention, il n'est jamais signalé comme radicalisé, avec un profil plutôt de fragilité psychiatrique, très solitaire, très renfermé, comme dans une autre réalité, nous dit-on. Il passe la journée à jouer aux jeux vidéo, il ne sort quasiment jamais en promenade et il refuse de voir sa famille au parloir. En 2013, il sort de prison, il est tout de suite accroché sur une petite affaire de vol et il va donc continuer à être suivi judiciairement, mais encore une fois, il ne sera jamais signalé comme radicalisé. Il y a 2 mois pourtant, il aurait confié à des proches vouloir à nouveau s'en prendre à des policiers. C'est ce qui va déclencher l'ouverture d'une enquête. Il est interrogé au commissariat local de Chelles, mais il n'y a à ce moment-là aucune preuve contre lui et il n'est donc pas inquiété. Et dernier élément, 3 de ses proches sont en garde à vue depuis ce matin et la maison de sa mère a été perquisitionnée toute la nuit.
Et je rectifie son âge, Karim Cherfi avait 39 ans et non pas 26. Alors, l'État islamique a très vite revendiqué l'attentat hier soir en évoquant un certain Youssef le Belge. Olivier, cet homme a-t-il un rapport avec l'assaillant ?
Non, aucun rapport établi à ce stade. Karim Cherfi n'a rien à voir avec la Belgique. Alors, est-ce qu'il a pu s'inventer de toutes pièces un alias de terroriste ? On ne peut pas l'écarter totalement. Est-ce que Daesh a fait une erreur ? L'hypothèse est évoquée également. Une hypothèse qui serait en l'occurrence inquiétante parce que ça voudrait dire que l'État islamique s'attendait à une autre attaque. Ce qu'on peut dire, c'est que hier, Karim Cherfi était seul. Aucune piste n'évoque ce midi un éventuel complice dans la nature. Il y a eu un doute, c'est vrai, sur un Belge qui s'appelle Youssef, comme sur la revendication. Un homme qui avait été signalé par les autorités belges hier aux Français. Mais c'est un homme qui s'est rendu ce matin en Belgique dans un commissariat. Il affirme n'avoir absolument rien à voir avec ce qui s'est passé hier sur les Champs-Élysées.
Merci pour ces précisions, Olivier Bois. Une fois de plus, donc, un policier aura payé de sa vie notre protection alors qu'il se trouvait dans ce car de police sur les Champs-Élysées. Xavier avait 37 ans et Guillaume Chies, vous nous dressez son portrait.
Oui, Xavier, originaire du Loir-et-Cher, était sorti de l'école de police il y a bientôt 10 ans. Depuis, il n'a jamais quitté la capitale. Affecté à la 32e compagnie d'intervention, il vivait paxé avec son compagnon depuis plusieurs années. Xavier était également adhérent de l'association LGBT policière FLAG. Michael Bûcheron, son président, le connaissait extrêmement bien. Il décrit un homme et un flic passionné.
C'était un vrai policier engagé qui aimait son travail. Voilà, c'est quelqu'un qui était enthousiaste, qui était volontaire et qui était encore jeune, qui n'était pas plan-plan, qui aimait bouger, qui encore une fois aimait les gens. Et malheureusement, d'autres qui n'aiment pas du tout les gens ont fini par y mettre fin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu sidéré par ce qui s'est passé et on a du mal à prendre conscience de la réalité, quoi.
D'ici quelques semaines, Xavier aurait dû quitter ses fonctions à la compagnie d'intervention pour rejoindre la police judiciaire. Une nouvelle affectation pour explorer un peu plus les différentes facettes de ce métier de policier. Xavier était également engagé personnellement contre le terrorisme, présent au concert de réouverture du Bataclan en novembre dernier. Interrogé par plusieurs médias, il incitait les spectateurs à revenir dans la salle de concert. Il faut célébrer la vie et dire non au terrorisme, disait-il il y a 5 mois à peine.
Merci Guillaume. François Hollande, Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur Mathias Fekl se sont rendus ce matin à l'hôpital Georges Pompidou à Paris au chevet des policiers grièvement blessés. Puis le chef de l'État s'est rendu à la préfecture de Paris pour saluer le courage exemplaire, a-t-il dit, des forces de l'ordre. Frapper sur les Champs-Élysées, évidemment le symbole est clair, c'est l'autre emblème de Paris après la Tour Eiffel, un lieu où l'on célèbre les victoires et l'image est sûre de faire le tour du monde. Anne Luena, vous êtes sur les lieux de l'attentat ce matin où des policiers sont venus rendre hommage à leurs collègues.
Oui, ils sont arrivés à pied avec une brassée de roses blanches dans les bras qu'ils ont posées contre un arbre et se sont recueillis quelques secondes. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police.
Exprimer à la fois notre tristesse mais aussi notre colère face à un nouvel attentat où un des nôtres est tombé pour la France au service de la protection de nos concitoyens. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, nous ne reculerons pas, nous ne baisserons pas les bras, nous n'avons pas peur et nous continuerons à être présents au service de nos concitoyens pour leur sécurité.
Notamment après-demain pour l'élection présidentielle. Laura, elle, est venue prendre son poste chez Marionneau.
Là, ils ont fermé vu les circonstances. Faut continuer à vivre, c'est malheureux ce qui s'est passé, mais ça aurait pu arriver n'importe où dans Paris.
Les quelques magasins adjacents vont ouvrir dans les prochaines heures. Des dizaines de journalistes, surtout de la presse étrangère, sont encore sur place. Quelques touristes s'approchent. Suzanne est américaine, elle vient à Paris 2 fois par an. Non, je n'ai pas peur. Ce n'est plus sûr nulle part, dit-elle. Je suis venue quelques jours après les attentats de novembre 2015. J'avais besoin de voir que Paris allait bien.
Voilà, elle n'a pas peur, hein, dit-elle quand même, cette touriste américaine au micro RTL. Dan Le Hénaff, et je vous rappelle que dans quelques minutes, nous recevrons le porte-parole du directeur général de la police nationale, Jérôme Bonnet, invité d'RTL Midi.
Quelles conséquences sur la campagne présidentielle à deux jours du scrutin? On en parle dans un instant.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parizeau.
Quelle sécurité autour des bureaux de vote dimanche? C'est l'une des questions que pose l'attentat d'hier soir. Le dispositif avait été porté à son maximum dans la semaine. 50 000 policiers et gendarmes mobilisés, 7 000 militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, des unités spécialisées d'intervention en état d'alerte et aussi la vigie des polices municipales. L'autre question, c'est de savoir si cet acte peut changer la donne dans les urnes. Les principaux candidats ont annulé leurs ultimes déplacements de campagne et tenu des conférences de presse dans la matinée. Marine Le Pen, depuis son QG de campagne, a dénoncé la politique des gouvernements de droite et de gauche.
La guerre qui nous est menée est une guerre asymétrique, une guerre révolutionnaire, une guerre qui a pour objectif notre soumission à une idéologie meurtrière. C'est une guerre où il n'y a pas d'arrière, puisque toute la population et tout le territoire sont exposés. Cette guerre nous est menée sans pitié et sans répit. Chacun comprend que nous ne pouvons pas la perdre. Or, depuis 10 ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous la perdions. Il faut une présidence qui agisse et protège. Puisque le pays est en état de guerre, la réponse doit être globale, totale, c'est-à-dire celle du pays tout entier. En ces circonstances, j'appelle tous les Français, quelles que soient leurs opinions, leurs convictions ou leur origine, à l'unité. Une unité sans faille, une unité profonde, comme celle qui unit les membres d'une même famille dans l'épreuve. Une unité dans la compassion, mais aussi une unité dans la lucidité, dans la détermination à ne pas s'habituer comme certains voudraient nous y inviter. Une unité dans le courage de combattre. Et bien sûr, dans l'idéal commun de vaincre.
Marine Le Pen avec Julien Fautra. François Fillon a promis ce matin qu'il placerait les personnes fichées S en détention. Une position que ne partage pas Emmanuel Macron. Il a rappelé ce matin sur RTL qu'il ne fallait pas céder à la panique. Mettre les fichés S en prison, a-t-il dit, n'aurait aucun sens. Il souhaiterait surtout mieux coordonner les renseignements. Benoît Hamon, lui, n'a pas renoncé à se rendre à Carmaux aujourd'hui sur les traces de Jaurès. Invité de BFM TV ce matin, il a mis en garde contre toute tentation de surenchère sécuritaire.
Il y en a qui, je crois que Marine Le Pen l'avait dit, si j'avais été présidente, le Bataclan, Nice n'aurait pas eu lieu. Comment peut-on dire une chose pareille? Qui peut croire cela sérieusement? Non, personne. Personne ne peut tout à fait dire ou empêcher qu'un jour, un fou décide, parce qu'il porte une arme, de tuer des policiers. La surenchère... Je la trouve sordide sur ces questions-là. Je la trouve sordide. Il faut regarder ces événements avec clairvoyance, qui nous frappe, avec détermination et résolution. Nous les frapperons en retour. Il n'y aura aucun crime impuni. Et nous mettrons tout en œuvre, la République, pour le faire. Mais arrêtez de parler là-dessus. Arrêtez de vouloir s'attirer à soi les bonnes faveurs de l'électorat, qui fera le numéro le plus autoritaire qui soit. Je trouve cela, voilà, sordide.
Voilà, pas de surenchère sordide, dit Benoît Hamon. L'attaque d'hier soir a eu lieu au moment où les 11 candidats faisaient un ultime tour de piste sur France 2. Ils ont dû réagir dans l'urgence à ce qui venait d'arriver. L'émission, en tout cas, a été suivie par 4 600 000 téléspectateurs avec un pic d'audience durant le quart d'heure d'interview d'Emmanuel Macron.
Voilà, et on vous demande si cet attentat peut changer votre vote. Vous votez là, pour le coup, sur RTL.fr, mais surtout, vous argumentez au 32-10 pour en parler avec nous dans quelques minutes. Encore deux choses sur ce dossier. Tout d'abord, une dernière minute, on apprend de sources proches de l'enquête qu'un mot manuscrit défendant Daesh a été retrouvé près de l'assaillant des Champs-Élysées hier soir. Une lettre donc où il défend Daesh, l'État islamique. Et puis une déclaration également à l'instant de Donald Trump après cette attaque terroriste. L'attentat de Paris, dit le président américain, aura un gros effet sur l'élection présidentielle.
Dans l'actualité, il y a aussi l'épilogue de l'attentat contre le bus de l'équipe de foot de Dortmund en Allemagne. L'auteur présumé, un germano-russe de 28 ans, a été arrêté. Le mobile n'était pas du tout terroriste, mais spéculatif. Il voulait s'enrichir en faisant chuter les actions du club. Le jour même, il avait acquis 15 000 options. Plus de 900 hectares de forêt détruits en Gironde dans le Médoc. Les pompiers aidés de Canadair n'ont pas encore réussi à fixer le feu parti hier à la mi-journée. Nous serons sur place à 13h.
On revient avec vous, Nicolas Georgerot, sur ce tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions. On disait Monaco doit absolument éviter le danger de la Juventus de Turin. Et ben voilà, c'est tombé sur Turin.
Oui, disons-le tout de suite, hein, c'est le tirage le pire pour l'AS Monaco, encore plus redoutable que d'affronter le Real Madrid par exemple. La Juventus de Turin est impressionnante. Les Italiens viennent de sortir le Barça 3-0 à l'aller, 0-0 au retour au Camp Nou. Eux, ils n'ont pas craqué, loin de là. Si vous voyez ce que je veux dire, oui, contre les Catalans, ce sont des retrouvailles. La Juventus avait battu Monaco en quart de finale il y a 2 ans avant d'atteindre d'ailleurs la finale cette année-là, et c'était déjà aussi une demi-finale en 1998. La première réaction de Ludovic Gioli, ancien joueur de Monaco, aujourd'hui ambassadeur du club, au micro de nos confrères de beIN Sport.
Les Italiens sont tactiquement très forts, il y a des grands joueurs. Maintenant aujourd'hui, tomber contre la Juve ou le Real ou l'Atletico, c'était difficile. Maintenant on est content, il va falloir être performant. Et voilà, et tout donner, parce que voilà, on est à 2 matchs d'une finale, ça peut être historique pour le club. Le talent est aussi à l'AS Monaco, et ça, c'est une force pour l'ASM.
Grand défi pour la jeunesse monégasque. Les Lemar, les Mbappé, les Bianconeri n'ont encaissé que 2 buts seulement depuis le début de la compétition. Match aller le 2 ou 3 mai en Principauté, match retour une semaine plus tard dans le Piémont, dans l'autre demi-finale. Le Real Madrid affrontera l'Atlético de Madrid, et puis on ne l'a pas encore, mais on attend évidemment le tirage de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue Europa. Ce sera face à Manchester United, le Celta Vigo ou l'Ajax d'Amsterdam.
Merci Nicolas. Et puis nous avons une pensée pour notre ami Philippe Roy-Contencin, avec qui nous avons partagé de beaux moments sur RTL et qui nous a quittés brutalement mercredi soir. Philippe était une des grandes voix du service économique, un garçon précis et chaleureux. Nous partageons la douleur de ses amis et de ses proches.
RTL Midi.
Invité d'RTL Midi, Jérôme Bonnet, le porte-parole de la police nationale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au lendemain de cette attaque terroriste sur les Champs-Élysées qui a coûté la vie à l'un de vos hommes. Pouvez-vous tout d'abord nous donner des nouvelles des 2 autres policiers qui ont été blessés hier soir dans cette attaque ?
Alors manifestement, ils vont bien dans la mesure où on peut aller bien dans ces cas-là, mais en tout cas, leur pronostic vital, qui pour l'un d'eux était engagé un temps, ne l'est plus à cet instant. Donc c'est plutôt heureux, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas traumatisés, on peut les comprendre.
Mmh. Quel est l'état d'esprit des policiers aujourd'hui, après cette nouvelle épreuve ? On rappelle que 9 policiers et militaires ont été tués dans des opérations terroristes depuis mars 2012, depuis l'affaire Merin. On a entendu de la colère.
Oui, il y a de la colère, elle est parfaitement légitime. Elle est parfaitement légitime parce que les policiers sont exposés, sont des cibles qui sont devenues des cibles évidentes. Mais je crois également que les policiers, il faut le souligner, ce qui s'est passé hier soir, certes, on a un drame absolu, on a un policier qui perd la vie en mission, mais on a peut-être aussi des policiers qui ont sauvé peut-être des dizaines de gens en réagissant extrêmement rapidement, et je crois que c'est important de le dire, et de dire que finalement, si quelque part ils sont tombés, cela a aussi du sens, et du sens par rapport à leur mission, et je crois que les policiers ont parfaitement conscience de ce sens, du sens de cette mission. En revanche, effectivement, qu'ils soient en colère, qu'ils se sentent ciblés, parfois critiqués de façon injuste, leur semble, je crois, disproportionné finalement. Et ce qu'on leur doit, nous déjà, toute la chaîne hiérarchique, on leur doit beaucoup de respect, on leur doit beaucoup d'affection même quelque part.
Justement sur ce point, et avant d'évoquer l'enquête, on rappelle qu'au moment de cet attentat, hier soir, se déroulait l'émission de France 2 avec les candidats à la présidentielle qui ont réagi à chaud. Et l'un des candidats a tenu des propos qui font polémique, c'est Philippe Poutou, qui est favorable au désarmement des gardiens de la paix. On le réécoute un instant.
Non, mais il y a un problème de terrorisme, de toute façon. Dans les manifestations aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans la mobilisation contre la loi travail. Il y a des agressions de la police, gazage, matraquage. Ça fait quand même des décennies qu'il y a une répression policière, avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police par année. Et donc, il y a une violence policière que nous, on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes ? On est dans le cas de contrôle au faciès, dans le cas d'une police qui fait chier des jeunes dans les quartiers, et puis ça se traduit souvent par des drames.
Alors, précisons tout de même qu'à la fin, Philippe Poutou a déclaré avoir une pensée pour le policier tué. Mais quand même, dans ce contexte, comment vous réagissez à ce discours ?
Écoutez, j'ai envie de vous dire que déjà, dans la famille police, on a des pensées qui vont peut-être encore bien au-delà de compassion et d'amitié pour nos camarades. Je suis ni habilité, ni dans une période qui me permet de commenter. Je crois que si les policiers n'avaient pas été armés hier soir, on aurait peut-être eu un carnage. Donc voilà, il y a un certain décalage avec la réalité qu'il ne m'appartient pas de commenter au-delà.
On peut parler de l'enquête avec vous, Monsieur Bonnet ? Où en est-on ?
C'est toujours délicat. Il revient vraiment au procureur de la République de s'exprimer sur ce point. L'ensemble des services antiterroristes sont saisis. Mmh. Je crois que, comme souvent, vous savez, on a une mission qui est difficile, c'est d'empêcher que les attentats surviennent. C'est la mission, et on l'a encore vu à Marseille en début de semaine.
Et on a encore vu aussi, par exemple, que dans cette affaire, cet homme qui avait proféré des menaces, qui avait manifesté son intention de tuer des policiers, a été arrêté le 23 février dernier. Bon, il a été remis en liberté, mais est-ce que ça n'est pas un élément en mesure, peut-être encore, d'accroître le malaise ?
Oh, je pense que beaucoup de policiers vont s'interroger sur la manière dont les choses se sont passées. Ensuite, c'est un principe d'état de droit, ce sont les principes de notre fonctionnement judiciaire. S'il n'y a pas assez d'éléments à reprocher à un individu, si les faits de menace contre les policiers ne sont pas caractérisés, le procureur de la République est parfaitement légitime à considérer que ce n'est pas le cas, que l'infraction n'est pas constituée.
Et il faudrait changer l'état de droit, comme le réclament certains candidats à la présidentielle aujourd'hui ?
Je pense que nous avons un environnement législatif assez complet, même très complet par rapport aux défis que nous avons. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont rapidement progressé ces dernières années. L'état d'urgence est quelque chose qui nous est utile, notamment lorsqu'il est question de perquisitions administratives, puisque certaines affaires sont déclenchées grâce à ça. Aujourd'hui, il me semble que l'arsenal est suffisant.
Un dernier mot, le dispositif de sécurité du scrutin du premier tour de la présidentielle, donc de dimanche après-demain, c'est 50 000 policiers et gendarmes, plus les militaires de Sentinelle, plus éventuellement des policiers municipaux. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour sécuriser 66 000 bureaux de vote partout en France ?
Oui. Le risque zéro n'existe pas, je ne suis pas le premier à le dire, loin de là. Beaucoup de ces bureaux de vote, évidemment, sont regroupés dans les mêmes sites. Ce ne sont pas 67 000 points différents. En tout cas, les consignes qui ont été données, la mobilisation qui est engagée, sont d'avoir une police présente, visible et invisible lorsqu'elle doit l'être, mais en tout cas de permettre à ce scrutin de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Merci Jérôme Bonnet, porte-parole de la police nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. On fait une pause, on prend des nouvelles du ciel avec Patricia Charbonnier.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnier, avec une très très belle journée.
Oui, cet après-midi, c'est encore du plein soleil. On aura simplement quelques passages nuageux au nord de la Seine avec un petit risque d'averse près des frontières du Nord. Et en plus, les températures repartent à la hausse. On a eu une matinée encore très fraîche avec de nombreuses gelées du nord-est au centre-est. Mais cet après-midi, on se rapproche des valeurs de saison avec 13 degrés au Havre, 16 à Brest, à Reims ou encore à Nancy, 17 à Lille et Strasbourg, 18 à Paris, 19 à Montélimar et 22 à Bordeaux.
Bon, et pour ce week-end, c'est mi-figue, mi-raisin ?
Alors, sur la moitié sud, c'est un très beau week-end qui s'annonce avec en plus les températures qui seront vraiment très agréables. Sur la moitié nord, pour demain, c'est un temps encore nuageux avec quelques pluies faibles près des frontières du nord demain matin et entre les Hauts-de-France et le nord-est du pays dans l'après-midi. Les températures encore localement fraîches en matinée, comprises entre moins 2 et 10 degrés, 13 à 25 dans l'après-midi. Et pour dimanche, c'est plutôt un temps très agréable partout. Simplement, encore une fois, quelques passages nuageux près des frontières du nord.
Merci Patricia.
Il est 13h.
RTL Midi. Le 13h, Vincent Parisot, Christelle Rebière.
Et vous, si vous le souhaitez, vous prenez la parole sur RTL. Pour ça, il faut faire le 32-10. Dès maintenant, évidemment, on va revenir sur l'attentat des Champs-Élysées hier soir à deux jours du premier tour de l'élection. Cet acte qui a coûté la vie, vous le savez, à un policier. Peut-il changer votre vote ? On vous pose la question, tiens, sur RTL.fr. Vous nous répondez oui à 21% quand même, 76% de non. Dites-nous pourquoi, on attend vos réactions, vos arguments, vos témoignages. On est avec le politologue Pascal Perrineau.
L'assaillant qui a été abattu au moment de l'attaque vers 20h50 hier soir sur les Champs-Élysées était déjà connu, mais il ne faisait pas l'objet d'une surveillance rapprochée. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour avoir tenté de tuer un policier en 2005. Trois de ses proches sont en garde à vue, Olivier Bois, mais une chose est sûre, il n'y a pas de complice dans la nature.
Oui, effectivement, il y a une dernière information sur cette enquête. Un mot écrit à la main a été retrouvé à côté du corps du terroriste. Un mot défendant Daesh. Ça veut dire que Karim Chorfi a signé son attaque hier soir. Sinon, effectivement, l'hypothèse d'un homme en fuite n'est plus évoquée. Il y a eu une alerte sur un éventuel complice belge, cette alerte est aujourd'hui levée. En revanche, l'enquête avance sur le profil de Karim Chorfi, profil très étrange, un homme ultra-violent qui a déjà tenté de tuer des policiers il y a 16 ans, mais il n'a jamais été signalé comme radicalisé. On nous décrit plutôt un homme avec un profil psychiatrique chargé, compliqué. Simplement, il y a 2 mois, il avait signalé à des proches qu'il voulait s'en prendre à nouveau à des policiers. L'enquête au départ, local n'avait rien donné, mais le parquet de Paris, le parquet antiterroriste, s'était tout de même saisi de l'affaire. Ça veut dire que cet homme, Karim Chorfi, était dans le collimateur des services antiterroristes depuis mars dernier.
Et cet homme, justement, âgé de 39 ans, habitait à Chelles, en Seine-et-Marne, chez sa mère. Cindy Hubert, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, on est ici dans un quartier résidentiel, tout près de petites barres d'immeubles. Le pavillon est évidemment sous-scellé. Des perquisitions ont eu lieu toute la nuit. Les policiers ont saisi des ouvrages religieux, sans que l'on puisse affirmer à ce stade que cela soit lié à un quelconque signe de radicalisation. D'ailleurs, ici, personne ne parle d'un homme sous emprise. Karim Chorfi était un solitaire, des parents séparés, une famille recomposée et surtout de longues années en prison pour tentative de meurtre, d'abord sur des policiers, condamnés à 15 ans de prison, à 15 ans de réclusion en appel dans les prisons de Fleury-Mérogis, Fresnes, Poissy, Meaux, puis à un retour express au domicile familial avant de replonger pour vol et refus d'obtempérer. Un homme marqué par la prison, mais surtout une haine tenace de la police, confirme son voisin Mohamed.
On le connaît, il a passé toute sa vie en prison, mais vraiment pas quelqu'un de Daesh ou de radicalisé, rien à voir avec tout ça. Dans son apparence, dans toutes ses discussions, ça se voyait clairement. Peut-être qu'il s'est fait monter la tête en prison, mais dire qu'il était radicalisé, vraiment pas. On l'aurait su, sinon. Clairement, c'était juste une haine de la police. Une haine envers la justice, une haine envers les policiers. Et voilà, peut-être qu'après il a pété un plomb en sortant de prison et qu'il a fait cet acte, mais vraiment rien de radicalisé.
3 des proches de Karim Chorfi sont actuellement en garde à vue pour tenter de retracer le parcours de cet homme, considéré depuis longtemps par les services comme violent et dangereux.
Cindy Hubert en direct de Chelles pour RTL. François Hollande, Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur ont tenu à rendre hommage aux forces de l'ordre. Xavier, le policier qui a été tué par le terroriste, avait 37 ans. 2 de ses collègues ont été grièvement blessés. Les principaux candidats ont annulé leurs ultimes déplacements de campagne, mais ils ont tenu à s'exprimer tout de même ce matin. Marine Le Pen réclame le rétablissement immédiat des frontières. François Fillon affirme qu'il veillera à placer les fichiers S en détention. Emmanuel Macron, ce matin sur RTL, souhaite renforcer les moyens du renseignement, mais ne veut pas emprisonner les personnes fichées S. C'est inefficace, dit-il. Et puis, à l'instant, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, s'en prend à Marine Le Pen et à François Fillon. Il les accuse d'avoir fait, je cite, le choix de l'outrance et de la division. Eh bien, on en parle, on attend vos réactions au 3210. Vous aurez la parole dans quelques minutes.
Voilà, et on se demande notamment quels peuvent être les effets de cette attaque terroriste sur le vote de dimanche. Eh bien, peut-être que Donald Trump voudra participer à l'émission. En tout cas, il pourrait. Il a tweeté sur ce thème à l'instant. Tweet de Donald Trump, l'attentat de Paris aura un gros effet sur l'élection présidentielle. Le peuple français n'acceptera pas cela encore beaucoup. Eh bien, ça aussi, vous pouvez réagir à ce tweet de Donald Trump, 3210.
Dans l'actualité, il y a aussi ces 900 hectares de forêt partis en fumée en Gironde, dans le Médoc, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bordeaux. Les pompiers luttent depuis 24 heures, mais ils n'ont pas réussi à fixer le feu. Jean-Marc Terrier, vous êtes sur place pour RTL, et l'inquiétude, c'est que le vent risque de reprendre.
Et les 4 canadaires ont repris depuis ce matin leur rotation au-dessus de ce massif forestier, profitant d'une accalmie du vent. Un vent qui est le facteur principal. Il était de nord-est jusqu'à présent, et dans la journée, il devrait changer de cap au sud-sud-ouest et se renforcer avec des rafales prévues autour de 45 km/h. Pierre Dartout est le préfet de Gironde.
Le feu est stabilisé, mais il n'est pas encore circonscrit. Il faut notamment que les sapeurs-pompiers puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas de redémarrage du feu, eu égard à la fois au vent qui demeure et égard bien sûr à la sécheresse dans les sous-bois.
Alors vous l'avez dit, ce sont près de 900 hectares qui sont d'ores et déjà détruits. 300 pompiers sont toujours actifs.
Romain, tu me libères 2 unités.
Avec notamment des équipes qui sont venues en renfort des départements voisins.
Son épine de 15 ans, hein, donc végétation de plus de 4-5 mètres de haut. Vous multipliez la hauteur du végétal par 2 fois la hauteur au niveau des flammes. Vous voyez bien les murs de flammes auxquels sont confrontés les hommes au sol.
Parallèlement, une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les causes du feu qui a démarré, seule certitude, près d'une zone artisanale et le plus troublant, avec plusieurs foyers simultanés.
Jean-Marc Terrier. Et puis nous vous attendons au 32-10 à 13h30 pour évoquer les gestes qui sauvent. Ouais. Un rapport a été remis hier au gouvernement qui prévoit une formation en continu tout au long de sa vie, dès le collège. Vous pourrez dialoguer à 13h30 avec Patrick Erdgen, le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous pouvez appeler dès maintenant.